Oui, bonjour Daniel, c'est André des Vosges. Ben, je voulais remercier ton émission pour l'hommage qui était rendu au général de Bollardière et me réjouir qu'un carrefour, bon, un carrefour c'est symbolique, porte dorénavant son nom. C'est vrai que l'évocation du général de Bollardière dans cette émission a fait ressurgir en moi beaucoup de souvenirs chargés d'émotions et de bonheur. Parce que j'avais une vingtaine d'années dans les années 75, et à l'époque, j'étais insoumis à l'armée, et avec deux autres copains, nous avons eu l'occasion de rencontrer le général Jacques de Boislardière. C'était à l'époque, sur le plateau du Larzac. Et pratiquement toute une nuit, avec lui, nous avons discuté, échangé, et surtout, nous l'avons beaucoup, beaucoup écouté. Et lui, nous racontant sa vie, ses engagements, ses convictions, une vie effectivement faite de droiture, de dignité, et puis surtout d'un grand respect pour l'homme. Ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué de voir cet homme, bon, qui était un ancien général de la Légion étrangère, qui avait fait l'Indochine, l'Algérie, issu d'une famille noble, bretonne. C'est vrai que j'étais toujours surpris de voir comment avec sa femme, il se vouvoyait, par exemple. Donc ça m'avait beaucoup marqué de voir comment cet homme avait pris et prenait toute sa part d'humanité, quoi. Et je crois que son témoignage, à l'époque, a contribué à m'édifier. Et c'est vrai que quelquefois dans la vie, il y a des rencontres comme ça qui permettent de se construire. Alors quelques années plus tard, ben, je me suis retrouvé dans un groupe qui militait pour faire en sorte que son nom soit donné à des rues, à des places, en vain.
Alors peut-être que la brèche ouverte à Paris, et c'est vrai que c'est symbolique tout près de l'école militaire, va permettre aujourd'hui ben, peut-être à d'autres de prendre le relais et puis de donner le nom de Jacques de Bollardière à des rues, à des avenues. Ce ne serait que justice, alors même qu'une multitude de rues, d'avenues, de places de notre pays porte le nom de militaires peu glorieux, ben, comme celui du sinistre général Mangin, dont tu as eu l'occasion de retracer les faits d'armes il y a quelque temps lors d'une de tes émissions. Voilà, merci beaucoup et bon courage. Au revoir.
Oui, bonjour, bien, c'est Gérard. Je vous téléphone de la région de Caen, dans le Calvados. C'est un souvenir par rapport au général de la Bollardière. Dans les années 70, nous étions 10 à bouler nos livrets militaires sur la place du marché à Caen, un dimanche midi. Et quelques mois après, nous fûmes jugés au tribunal. Le général de la Bollardière est venu comme pour être entendu, comme témoin à la défense de notre geste. Et même à cette époque-là, il était déjà injurié, insulté, puisque le tribunal a refusé de l'entendre, estimant qu'il connaissait ses idées. Voilà, en tant qu'antimilitariste, en tant qu'objecteur de conscience, insoumis, mon général, je vous salue et je vous remercie.
Bonjour à tous, bonjour Daniel Mermet, je suis algérienne et lorsque j'entends les journalistes de France Inter parler du voyage de Sarkozy en Algérie, je suis toujours très en colère parce qu'on a l'impression qu'on attend Sarkozy comme le Messie. Mais les Algériens n'attendent rien de Sarkozy, ni de son gouvernement, ni du gouvernement algérien. Sarkozy est en train de piétiner les acquis sociaux des Français. Sarkozy est en train de favoriser la classe, les riches de France, et vous ne voulez tout de même pas qu'il aille tout d'un coup remettre de l'ordre. C'est pratiquement du néocolonialisme. Et en plus, si Sarkozy enfonce les Français, il n'y a pas de raison qu'il n'en fasse pas de même pour les Algériens. Je parle des citoyens algériens. Voilà, il va avec ses multinationales. Il est allé simplement chercher lui aussi sa part de gâteau. C'est tout. Parce que maintenant, il y a de la concurrence. Il y a les Américains, il y a les Chinois. Pendant ce temps, les Algériens sont là. Voilà, c'est tout. On va aller piller le pays. C'est tout. Il n'y a pas de démocratie. Les vrais démocrates, on n'entend jamais parler d'eux. Ce sont toujours les mêmes qui sont interviewés. C'est tout. Voilà. Au revoir à tous.
Bonjour, je suis scandalisée par ce que j'écoute ce matin sur votre antenne avec M. Ferraud. Il parle des Maghrébins et il disait que les Français ont exploité les Maghrébins et qu'il faudrait faire pénitence. Je ne comprends pas cela. car les Arabes, là-bas, on leur a donné du travail. Et c'est eux qui n'ont pas voulu travailler, parce qu'ils sont très feignants. Ils continuent ici, et avec leur violence et leur démographie qui ne cesse de s'accroître, nous sommes, nous, Français, maintenant très démunis. Donc, Monsieur Féraud devrait plutôt s'occuper des Français, car c'est abominable d'entendre des choses pareilles. Ils ont beaucoup d'aide. Ils ont la CMU. Ils sont en train de piller la France car ils envoient leurs médicaments dans le Maghreb. Ils envoient plein de choses qu'ils ne payent pas. Alors arrêtons cette démagogie et pensons à nous, les Français, qui sommes vraiment maintenant très appauvris par tous ces gens qui viennent nous prendre non seulement toute la nourriture pour l'envoyer ailleurs. Et de plus, ces gens-là ne sont contents nulle part, puisqu'ils le viennent dans tous les pays et ils n'arrêtent pas de faire des enfants pour pouvoir justement plus tard prendre la France et toute l'Europe. Voilà ce qui nous attend. Et pensez aussi que bientôt les enfants et les petits-enfants seront des personnes voilées. Voilà. Alors ne nous voilons plus la face et arrêtons.
Bonjour à tous. Je te soupçonne, Daniel, d'avoir des plaisirs malsains. Je m'explique. Il y a certains messages que tu dispenses, que parmi les autres, qui sont des monuments de haine, lâchés par des gens aigris jusqu'au trognon. Ils t'écoutent du fond de leur salon au luxe désuet, en transpirant à grosses gouttes. Tu incarnes pour eux le monde qui s'écroule, la chienlit. Ils ne se rendent pas compte que ces quelques phrases ruminées pendant des heures, et même peut-être la nuit, qu'ils te lancent pour te clouer le bec, ratent complètement leur cible, et témoignent juste de leur décrépitude. Mais je te soupçonne d'en rigoler. Alors, même si c'est le premier mouvement, il faut un peu de pitié pour ces auditeurs qui transpirent dans leur bergère Louis XV en t'écoutant. Car c'est l'amour qui leur manque, et la misère, la vraie, elle est là aussi. Salut à tous.
Bonjour, je viens d'entendre cette dame qui posait la question que j'ai posée déjà plusieurs fois, à savoir, qui paye les voyages de Monsieur Mermet ? Il s'est bien gardé d'y répondre. C'est quand même dommage. Comme plusieurs personnes posent la même question, il pourrait avoir la politesse d'y répondre, me semble-t-il. Alors j'attends une réponse. Qui paye ses voyages dans le monde entier ? Merci.
Non mais, de temps en temps, il y a des auditeurs qui laissent des messages sur le répondeur en disant, mais qui c'est qui vous les paye, vos beaux voyages, monsieur Mermet ? Hein ? Alors la réponse, elle est connue, hein, c'est vous, ami auditeur. C'est vous qui avez, avec votre redevance, payé nos beaux voyages. C'est vous qui êtes pris en otage par le service public. Mais là, je peux vous dire que l'argent, l'argent que nous vous raquettons, eh ben là, il est bien utilisé. Hein. On peut dire qu'on en bave. Ça fait quoi, 2 heures qu'on marche avec Guy et Antoine ? Et ça monte, hein. Et ça monte, et il y a de la gadoue, et on ne peut plus respirer. C'est très très beau, le paysage est très très beau. Mais vraiment, moi, on n'en peut plus. Mais 3 heures, enfin, on fait semblant d'en pouvoir encore, mais les plus honnêtes d'entre nous. Et puis en plus, il faut attendre ces militaires, c'est une bande de feignants qui traînent derrière.
C'est vraiment la jungle, hein.
Ah, c'est vraiment la jungle. C'est magnifique, hein. Elle est en route. Ah ouais, on y avait pensé à ce message-là. Là, on était encore tout flambant parce qu'on n'en était qu'à 2 heures de marche, mais on en avait encore 3 devant nous. 3 heures encore, il a fallu marcher. Voilà, ce sera un des sujets, un des reportages de là-bas, si j'y suis, en Colombie, celui-là. Mais voyez qu'on pense à vous, hein, hein, au fin fond de la jungle. Eh ben, on a des pensées pour vous, amis auditeurs, qui laissez des messages dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Ce dont nous vous remercions, ce dont je vous remercie, chers AMG, chers auditeurs modestes et géniaux. Hier, on a juste un tout petit peu commencé notre voyage en Colombie. On avait voulu parler, évidemment, l'exposition à la Bibliothèque Nationale sur l'enfer qui ouvre aujourd'hui cette exposition, et puis rendre un hommage au général de Bollardière, évidemment. Donc, mais là, aujourd'hui, on part pour de vrai. On va donc à Saint José d'Apartado, dans cette communauté de paix, qui est un endroit exemplaire. Une communauté, c'est un peu comme commune, c'est un peu une commune. On pourrait vraiment dire une commune. Et c'est une situation, une résistance, une véritable résistance, on pourrait dire une résistance passive ou une résistance pacifique, vous allez voir, mais qui à elle-même représente toute la, le problème, le drame, la déchirure, le déchirement de ce pays magnifique. Hein, effectivement, la Colombie est un pays magnifique, mais hélas, en proie à cette guerre civile, ce conflit armé, faut-il dire, qui n'en finit pas, et dont ce petit village, cette petite communauté de paix de San José de Apartado est le symbole, mais un symbole actif, un symbole en lutte, et c'est là que nous allons. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour. Je voudrais réagir au sujet de notre président, l'intervention de notre président. Je l'ai trouvé, il est formidable. Voilà. Il est très bien. Parce que nous avons accumulé des faiblesses, hein, mes chers Français et Françaises, des faiblesses pendant presque 20 ans à cause de 35 heures. Et ça met tout le monde à la poubelle. Et maintenant, pour sortir de la poubelle, et c'est très difficile. Et c'est pas en 6 mois on peut résoudre ce problème. Et voilà. Et il faut tout le monde se mettre au travail. Voilà. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que ça. Il faut qu'on arrive à supprimer 35 heures parce que c'est pas bon. Et on devient paresseur et paresseuse. Voilà. Merci. Au revoir.
Mercredi 5 décembre, 14h30, devant la préfecture de Rouen. Contre la frénésie du chiffre hortefeux, répondons par notre nombre. Ce rassemblement à l'appel du comité de soutien aux scolaires sans papier du lycée Colbert du Petit Quevilly est soutenu par le réseau Éducation sans frontières, RESF de Rouen. À mercredi. Ne laissons pas, avec les sans-papiers, expulser ce qui nous reste, les droits de l'homme. Nous avons besoin de vous. À mercredi.
Ben bonjour, moi c'est Nicolas de Péronne en Bourgogne. C'est pour dire qu'il y a un gros con de chasseur qui a tué mon chat, voilà. Salut.
Oh, arrête.
C'est très facile, tu es ici. Ici, on tue tranquillement. Alors j'ai très peur pour Ingrid ici.
La stratégie paramilitaire en Colombie est née pas pour attaquer une armée populaire, une guérilla, mais pour attaquer une manière de penser, c'est-à-dire les sympathisants du communisme.
Yo tengo casi 40 años.
Presque 40 ans.
Y siempre hemos estado en guerra.
On a toujours été en guerre.
Me matan o mato, pero voy a morir peleando.
Il me tue ou je les tue, mais là maintenant, on va se battre.
Otra Colombia es posible.
Une autre Colombie est possible. Salut Daniel Mermet, Guy Vanctil et Antoine Chao. Colombie. La mort facile, l'épreuve de vie.
Escuchen, escuchen la base de Suisse.
Flight number 2, arriving from New
York. C'est juste pour ça, Aaron, regarde. La comunidad de paz, San José de Apartado. Voilà, ça c'est le panneau qui accueille le visiteur. La comunidad libremente participa a los trabajos comunitarios.
La communauté librement participe aux travaux communautaires.
Dice no a la injusticia.
Elle dit non à l'injustice.
Et impunidad de los hechos.
Et à l'impunité des faits.
No participa en la guerra directa o indirectamente.
Elle ne participe pas à la guerre directe ou indirectement.
Ni porta armas.
Elle ne porte pas d'armes.
No manipula ni intriga información a ninguna de las partes.
Elle ne donne pas d'informations à aucune des parties belligérantes.
Et ça, Aaron, ça c'est vos grands principes.
Mmh. Son aspect principios de
quand on nace la communauté pas certaine.
Ça, c'est les principes de quand est née la communauté ici, de paix.
Mais vous vous occupez pas de la guerre, mais la guerre s'occupe de vous, en tout cas, ce que je vois.
Ah, si, los involucran en la guerra porque estamos al medio del conflicto.
Mais oui, nous, on est entraînés dans la guerre, quelque part, parce qu'on est au milieu du conflit.
Difficile d'y échapper, vous êtes toujours pris à partie, quoi.
Ah, si, porque nosotros estamos aquí al medio, cuando no es el uno, es el otro que nos atropella.
Quand c'est pas l'un, c'est l'autre qui nous attrape.
Il n'y a pas Ingrid Betancourt qui est otage en Colombie, on le sait, on dit, il y a les trois les Américains et puis il y a des diplomates avec elle. Combien sont-ils? Ah, 45. Ah oui, mais il y a aussi, vous savez, les militaires, les policiers qui sont considérés comme des prisonniers de guerre. Ah oui, combien sont-ils? Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les otages économiques, ceux qui servent à la rançon, au financement de la guérilla. Ah oui, combien sont-ils? Et on peut continuer comme ça et on s'apercevra qu'en fait, c'est toute la Colombie, tous les Colombiens qui sont otages. Il n'y a pas qu'Ingrid Betancourt, tous les Colombiens sont otages de cette guerre civile, de ce conflit armé qui déchire ce pays depuis tant d'années. Et là, dans ce village, eh bien, ils le sont otages. Les paysans de ce village de San José de Apartado, ils le sont. Mais ils sont conscients de l'être. Ils veulent échapper à ce chantage permanent qui fait que la guérilla les prend en otage, a voulu les prendre en otage. Ils ont refusé et la guérilla a tué trois d'entre eux. Et de l'autre côté, l'armée et les paramilitaires qui, on l'a dit hier et on le répétera très souvent parce que c'est le phénomène numéro un actuellement en Colombie, c'est le scandale actuellement de la Colombie, travaillent ensemble, paramilitaires et militaires, eh bien, aussi les prend en otage, prétend les protéger, mais les utilise pour se protéger dans ce conflit armé, dans cette stratégie très particulière qui est celui de la guérilla et de la lutte contre la guérilla. Si bien que ces paysans se sont organisés et ont constitué cette communauté de paix. En 1997, ils ont créé, lassés d'être pris en otage, d'être pourchassés, poursuivis, massacrés, torturés, etc. Ils ont préféré se créer cette communauté de paix. Et c'est cette histoire qu'ils vont nous raconter, parce qu'ils disent communauté de paix dans une zone de conflit. Ils disent qu'ils veulent rester neutres, mais c'est impossible, très difficile, parce que en permanence, ils sont pris à partie, et je le répète, ils illustrent cette Colombie, la vérité de la Colombie, l'essentiel de la Colombie. Évidemment, quand on arrive à Bogota, on sent pas ça vraiment, les gens de Bogota sont loin de tout ça, mais Bogota, c'est pas toute la Colombie, bien évidemment, comme Cartagène n'est pas toute la Colombie, ces zones touristiques, mais l'essentiel est bel et bien là, et en 10 ans, on le disait hier, ils sont 1500, ces paysans, ils ont construit ce village, ils vont nous raconter comment ils ont construit véritablement tout le village, comment ils sont organisés. En une dizaine d'années, eh bien, il y a 185 d'entre eux qui ont été tués, une vingtaine par la guérilla et tous les autres par les paramilitaires, l'armée et les forces de police. Et ils symbolisent ça à travers des pierres qui sont au milieu d'un grand espace vert, au milieu du village, par des pierres peintes de couleurs vives, avec des noms, qui sont ceux des leurs. Souvent, ce sont des leaders communautaires qui ont été abattus au cours de ces 10 années. 7 heures, évidemment, l'auraient consacré. C'est jusqu'à 16 heures. Là-bas, si j'y suis, Colombie, la mort facile, l'épreuve de vie. We'll be right back.
arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro.
Zenaida,
camina duro.
Zenaida,
la chancletera.
Zenaida,
fruto maduro.
Zenaida,
la callejera. Ey, negrita del manglar, hormiga de ciudad, tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Tu fruta me sabe a cumbia, cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida,
baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia.
Et voilà, Aaron avec trois chaises sur la tête.
Si vous voulez dessiner la Colombie, il faut dessiner un cheval. Il faudrait dessiner un cheval. Il faudra dessiner un chapeau. Il faudra dessiner une machette. Il faudra dessiner un perroquet. Il faudra pas oublier un billard. C'est des grands joueurs de billard. Et puis tout le reste, ce sera du verre. Il vous faudra beaucoup, beaucoup de verre pour dessiner la Colombie. Il vous faudra... beaucoup de bleu pour faire la mer autour, du gris aussi quand même pas mal sans doute, et puis du blanc pour faire la neige, parce que c'est très très haut la Colombie, hein, ça monte à plus de 5000 mètres par endroit. Voilà un pays magnifique, mais là il vous faudra faire tout ça en aquarelle, hein. Il faut beaucoup 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 d'eau, parce que c'est un pays sur lequel il pleut beaucoup beaucoup beaucoup, comme ce soir là cette nuit là la nuit est tombée sur Sainte Rosée de Apartado, sur ce village, et on est avec Aaron. Je vous souhaite dans votre vie de rencontrer souvent des gens comme Aaron. Lui, il a le chapeau, Aaron. Il a les trois chaises sur la tête, c'est pour qu'on s'assoie à côté des hamacs, c'est là qu'on va dormir. Et c'est là qu'il va nous raconter un peu ce qu'on fait là, et surtout ce qu'ils font là, comment on en est arrivé là, comment ils ont construit ce village, ces paysans de leurs mains, les mains comme celles de Aaron, qui sont des bonnes grosses poignes de paysans qui savent de quoi ils parlent.
Aaron, ici on est dans quelle région ?
Dans quelle région ? La région d'Urabá, département d'Antioquia.
Ici on est dans la région d'Urabá, le département d'Antioquia.
Alors, toi, tu es un paysan ?
Campesino toda la vida.
Oui, paysan depuis toujours, toute la vie.
Llegué a trabajar l'agricultura, a sembrar maíz.
Moi, je suis venu ici pour faire de l'agriculture, pour planter du maïs.
Frijol.
Des haricots.
Yuca y plátano.
De la yuca, de la banane.
Estábamos organizados por ahí unas 40 familias.
On s'est organisé à 40 familles.
En junta de acción comunal.
En conseil d'action communale.
Et ça, ça a duré jusqu'à quand ?
Hasta el 96.
Jusqu'en 96.
Que vino la remetida paramilitar.
C'est là que les paramilitaires sont arrivés.
Entonces el ejército le decía uno, si ustedes no se van, vienen los mochacabezas y van a matar a ustedes.
Et les militaires nous disaient, si vous partez pas, les coupeurs de tête vont arriver. C'était les paramilitaires.
Sí, ellos le mochan la cabeza hasta los niños.
Oui, eux ils coupent les têtes, même des enfants.
Pourquoi ces menaces ?
Nos decían, estas tierras las necesitamos, si no colaboran con nosotros, los matamos.
Parce qu'ils avaient besoin, ils voulaient récupérer ces terres. Et ils nous disaient que si on collaborait pas avec eux, ils nous tuaient.
Mais quelle collaboration ils voulaient de vous ?
Que trabajáramos con ellos de informantes.
Ils voulaient qu'on soit des informateurs, des indiques pour eux.
Que le dijéramos dónde estaba la guerrilla, por dónde andaba, cómo, quién era los mandos y todo eso.
Ils voulaient qu'on leur donne les membres de la guérilla, qu'on les renseigne sur la guérilla.
Parce que, Aaron, ce qui se passait, c'est que la guérilla était présente aussi ici.
Mucha fuerza tenía en esa época.
Oui, la guérilla était très forte à ce moment-là.
Ouais. C'est-à-dire que vous êtes pris entre trois feux, entre l'armée, les paramilitaires et les FARC et la guérilla.
Eso. Ahí al medio estamos nosotros.
Oui, c'est ça. Nous étions au milieu de tout ça, au milieu de ces trois forces.
Entonces nos obligaron a tener que dejar todo. A mucha gente perdió, le robaron el ganado, los cerdos.
On a été obligé de tout laisser, de tout perdre. Il y a des gens qui ont perdu tous leurs animaux, toutes leurs bêtes, leurs cochons.
Vino el desplazamiento masivo.
Il y a eu un déplacement massif.
Todas las veredas se desplazaron aquí a San José y la gente se fue para las ciudades.
Toutes les fermes se sont déplacées ici vers San José y après les gens sont allés vers les villes, vers les grandes villes.
A Medellín.
A Medellín.
Apartado.
A Apartado.
Y a diferentes municipios que la gente se regó, más de 3.000 personas que habíamos en esa zona.
Y a d'autres municipalités, mais c'est 3.000 personnes qui sont parties à peu près d'ici.
Et vous, vous êtes resté?
Yo me fui un tiempo.
Moi, je suis parti quelque temps.
Tuve 7 años en varias partes desplazado.
Moi, j'ai passé 7 ans à l'extérieur, en exil.
Y hace 3 años que llegué aquí a la comunidad.
Et ça fait 3 ans que je suis revenu ici à la communauté.
Y en este momento hago parte del consejo interno.
Enfin, je fais partie du conseil interne de la communauté.
Estoy trabajando con la comunidad.
Voilà, je travaille avec la
mi familia.
Avec toute ma famille.
On va écouter l'orage et la pluie, là. C'est trop beau, c'est trop beau.
Maintenant, il fait complètement nuit, il fait complètement noir, et quand il y a des éclairs, comme le toit est ajouré, on voit les arbres qui se dessinent sur le fond de l'éclair.
Le jour où la pluie s'arrête de tomber, je ne sais pas quand, mais il y a bien un jour quand même où la pluie s'arrête, on peut aller jusqu'à une rivière qui est derrière le site où nous sommes, derrière ce petit village. Et là, il y a une rivière qui court sur les cailloux dans la jungle. Et c'est un endroit très très sinistre pour les habitants de ce village. C'est là que le 21 février 2005, le leader de la communauté qui s'appelait Luis Eduardo Guerra, a été assassiné avec sa compagne et leur fils. Et le même jour, une autre famille a été massacrée, dépecée dans leur maison. Et c'était une famille avec 3 enfants de 18 mois, 6 ans et 11 ans. Et si on s'approche de ce qui reste de la maison, qui est vide, on voit une chaussure d'enfant, enfin quelque chose qui traîne comme ça. Et sur la cloison de bois, c'est des maisons de bois, il y a 3 lettres. AUC, Autodéfense Unie de Colombie. Ces crimes sont signés par Autodéfense Unie Colombie. Aujourd'hui, cette organisation est en principe dissoute. C'était l'organisation qui regroupait toutes les unités paramilitaires de la Colombie et qui était reconnue, puisque ça existait, par le gouvernement. Je dis dissous aujourd'hui parce qu'il y a une opération de démobilisation dont on aura l'occasion de parler. De vérité, justice, une sorte d'opération de ce genre, comme inspirée de celle mise en place en Afrique du Sud, sauf que beaucoup, beaucoup d'observateurs, et pas seulement d'observateurs, doutent beaucoup de l'efficacité de cette démobilisation, puisque d'ores et déjà d'autres unités paramilitaires se reconstituent, telles que les Aguilas Negras, les Aigles Noirs, et que on soupçonne très fortement le gouvernement de blanchir de cette façon ces forces paramilitaires à travers des peines très courtes qui sont données en échange de d'aveux sur lesquels on ne revient pas. Et enfin, on reviendra là-dessus. Mais en tout cas, c'est pour dire que la vraie monstruosité, bien sûr que il ne s'agit pas pour nous de prendre parti entre la guérilla et les paramilitaires, comme Les Colombiens sont obligés de le faire. Mais dans la représentation que nous avons ici de ce qui se passe en Colombie, à travers ou derrière la figure d'Ingrid Betancourt, c'est-à-dire une femme otage des fax, qui est la vérité, ça cache, ça permet, ou en tous les cas ça cache, cette vérité énorme qui est celle des paramilitaires qui, depuis si longtemps, au nom de la lutte contre la guérilla, opprime et réprime ce pays, dont ces paysans avec lesquels nous sommes ce soir-là. Et dans une maison voisine, on rencontre Javier Giraldo. Javier Giraldo, c'est un prêtre jésuite qui est l'âme pensante, on va dire, de cette communauté. C'est pas le chef de la communauté, mais il est là pour faire son rôle de prêtre. Et pas seulement, on va voir, parce que c'est un lutteur social également. Il nous explique les raisons de l'existence de cette communauté et chance, il a vécu en France, il parle français.
Il y a une dizaine d'années, on a fondé la communauté de paix de San José d'Apartadó. Pourquoi? C'est une région de violence. Et depuis beaucoup d'années, c'était une région de guerre, où la guérilla, où sont les paramilitaires, où l'armée fait des choses terribles. Et il y a une dizaine d'années, l'évêque d'Apartadó a conseillé les paysans de cette région-là de se manifester comme des populations civiles, pas une population proche des acteurs armés. Et les paysans de ces régions-là ont accepté le conseil et ils ont commencé à étudier un peu les conventions de Genève, les droits internationaux humanitaires, et ont commencé à faire une déclaration publique d'être une population civile qui n'était pas engagée dans la guerre et qui exigeait le respect des militaires, du gouvernement, de tous les acteurs de la guerre. Et c'était la semaine sainte de l'année 97. Et la même semaine a commencé l'attaque des militaires. Ils ont fait des bombardements de la communauté. Ils ont tué beaucoup de gens. Ils ont torturé les paysans. Et la plupart des paysans des communautés rurales ont quitté la région. Ils se sont rassemblés au village de San José.
Et pourquoi cette attaque contre ces paysans?
C'est la réaction de l'armée et du gouvernement à cette espèce d'indépendance qui prenait les paysans par rapport à la guerre. Le gouvernement voulait que tout le monde était engagé dans la guerre et de son côté et contre la guerrilla.
D'accord. C'est-à-dire que pour le gouvernement, c'est... Ou bien tu es avec moi, c'est-à-dire tu es du côté du gouvernement, ou bien tu es contre moi, oui. C'est-à-dire du côté des FARC, du côté de la guérilla, du côté des terroristes.
Oui, c'est ça.
Mais pour cette raison, le gouvernement a envoyé l'armée torturer, tuer...
Et beaucoup d'autres ont été expulsés de leurs terres, même leurs maisons ont été brûlées, beaucoup d'entre eux... torturer, les femmes violées, les cultures brûlées aussi. Le pays est devenu de plus en plus un pays de guerre. Je crois que depuis plusieurs années, les gouvernements ont adopté une stratégie paramilitaire.
Pour vous, il y a un lien direct, évident, entre paramilitaires, armée, État.
Oui, c'est absolument évident.
Para médico, para quinteto, para que seas útil a la sociedad, para ver si asegura tu futuro, para esa que te debe de soltar, para taxista, para futbolista, para que juegues como el pibe de Bacán, para todo lo que aprendas en la vida, para que te ayude a la vida. Para político no, para periodista sí, para político no, para músico también, para músico no, para zapatero, ¿qué? Para político no, para chofer, para político no, de bus, para político no, mejor dicho chincho, para político no.
soldado sí.
Para político no.
Para profesor que
no. Para político no.
Bon, il pleut, d'accord. Mais c'est quand même assez étonnant hein, comme environnement. D'abord, ils ont reconstruit toute cette ligne d'habitation, tout en bois, couvert de tôle. Quelques cochons qui se baladent en toute liberté. Des poules,
des dindons.
Des poules, des dindons. Des coqs braillards qui servent de réveil matin. Ici, on ignore le réveil matin. Et puis voilà. Là-bas, c'est les brigades internationales. Mais attention, de la paix. Il n'y a pas grand-chose à voir avec les vraies brigades internationales. Et puis voilà, ça ressemble tout à fait, d'une manière extraordinaire, à la Realidad, dans le Chiapas, le village de Marco. C'est la même disposition, on voit les mêmes têtes à peu près, on voit le même, il y a la même ambiance, il y a les mêmes antennes de télé, tu vois, les grands espèces de mâts avec un bout de ferraille, soit un cercle, soit une sorte de râteau, soit trois fils de fer, qui permettent de recevoir la télé, peut-être la radio aussi.
Es el radio.
¿Cuál
cassette? ¿Cassette? Alors c'est pour qui ces fleurs? ¿Para quién son estas flores?
Ya no me acuerdo cómo llama el muchacho.
Ah, c'est les fleurs pour la personne qui est décédée. Parce qu'il va y avoir une messe, il va y avoir une messe.
Entonces vieron que allá le iban a poner la flor, entonces yo le llevo a la bebé. Como la lleva ella, entonces ya la lleva.
Moi j'emmène, alors elle emmène son bébé et c'est la petite qui va donner poser les fleurs.
Taina, diga el nombre, ¿cómo se llama? Ella llama Vanessa.
Vanessa. Elle s'appelle Vanessa la petite. Muy bien. Bueno, pues ya vamos, ¿no? Hasta luego.
Voilà, tout le monde se prépare pour la marche. Hein. La marche ce jour-là, on va partir du village de la communauté de paix de San José de Apartado pour aller jusqu'à la ville de Apartado. C'est à côté, c'est juste 12 kilomètres qu'on va faire à pied. Et une marche de protestation et une marche à la mémoire des quatre paysans qui ont été tués ce mois dernier, ce qui porte le nombre de morts depuis, de victimes depuis 10 ans à 190 au total. Mais c'est toujours les leaders communautaires, les porte-paroles, les organisateurs qui sont visés intentionnellement. Mais c'est pas la seule chose. Il y a toutes sortes d'oppression, de déplacements forcés en faisant peur aux gens, ou alors des blocus qui sont faits, comme la communauté est à, je le répète, 12 kilomètres. Évidemment, il y a des camions ou des bus qui amènent des vivres, enfin des produits pour la vie normale de la communauté. Alors, il arrive que les autorités de la ville voisine, la ville d'Apartado, bloquent les bus, par exemple. Donc, c'est une résistance constante de ces habitants. Tout ça parce qu'en 2005, ils ont refusé l'implantation, ils nous l'ont dit, d'un poste de police sur l'espace de leur communauté, de leur village. On dit, après tout, oui, c'est un peu normal quand même d'accepter. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas une police comme ça, comme chez nous. C'est une police qui guerroie contre la guérilla et qui, on le sait, qui au nom de cette lutte, on le dit, on le répète, on ne le dira pas, il ne le répétera pas assez, ne fait pas que ça, évidemment, à qui cette lutte sert d'alibi et de prétexte. Donc les paysans n'ont pas du tout envie de les voir sur leur territoire, d'autant plus que dans ces affrontements possibles, toujours possibles avec la guérilla, ils se servent des paysans comme boucliers, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas protéger les paysans, ils viennent pour que les paysans les protègent. C'est une des stratégies très anciennes, ces stratégies-là, mais les paysans n'ont pas envie de rentrer dans, là-dedans, quoi. Et alors, du coup, eh bien, ils se font abattre, et c'est ce qui s'est passé encore. Donc, ces dernières semaines, voilà la raison de la marche. Voilà quelqu'un qui connaît bien la question, puisqu'il est, il est un des leaders et un de ceux qui, avec d'autres, ont organisé aussi cette communauté. C'est 1500 personnes, quand même, c'est du boulot hein, d'organiser tout ça. Hein. Il y a du travail communautaire, il faut accepter le travail communautaire, la répartition, les horaires, le truc, etc. C'est pas si facile. Et ils sont évidemment très fiers de ce qu'ils ont construit, les maisons, les... Le grand kiosque où ils se réunissent, entre autres pour faire de la musique, mais pas seulement. Et voilà ce que nous dit Jesús Emilio.
Ouais, on lui demande de couper la musique, 5 minutes.
Ouais.
Que le corte 10 minutes.
Et après, on reprend.
C'est très vivant ce village hein, là. C'est vraiment un endroit formidable. Hein. On parle d'une communauté, on parle d'une ville, d'un village. Eh bien c'est ça, c'est une communauté, c'est un village. Il fait pourtant gris, il pleut, il fait pas froid. Mais tout le monde galope dans tous les sens, les canards, les mômes, les chevaux, les cochons. Là il y a ça palabre au bord de la. À l'entrée de la maison, ça sirote. Un jus de fruits. Là-bas, il y a un grand kiosque recouvert en chaume où les jeunes sont en train de faire de la musique, etc. C'est là où ça danse, où ça se réunit. Enfin, bon, c'est très, très gai. Les mômes jouent au foot autour de nous, etc. Et là, il y a ces pierres. Alors, c'est étonnant parce que c'est des grosses pierres, deux peintes de couleurs rose, bleu, jaune, etc., avec des noms. Alberto Montola, etc. Là, je vois d'autres prénoms, des noms, etc. Et ça, ce sont les morts de la communauté. C'est-à-dire qu'en 11 ans, ils ont eu plus de 180 qui ont été assassinés en 10 ans pour une communauté qui fait à peu près 1000 personnes. Et ce que nous explique Jesús Emilio, c'est qu'ils refusent la justice. C'est-à-dire que comme la justice ne fonctionne pas, comme la justice ne veut pas de leur plainte, eux ne veulent pas non plus de la justice, ils se mettent donc hors la loi, mais c'est leur guerre à eux, c'est ça leur guerre pacifique. C'est pas une guerre de la neutralité, c'est pas une guerre de la fuite, mais c'est une guerre qui va sur des termes juridiques, sur des termes aussi de résistance, parce que, est-ce que vous êtes menacés là actuellement ?
Sí, nosotros, como digo, todos los miembros de la comunidad de paz vivimos amenazados del Estado y por eso nos han seguido matando y las últimas muertes han sucedido ahora entre hace dos meses.
¿Sí? Oui, on est toujours menacés par l'État et d'ailleurs il y a eu encore quelques morts, plusieurs morts il y a quelques mois.
Porque en Colombia no hay otra comunidad campesina que denuncie tan claramente todos los crímenes. De todos los actores armados.
Parce qu'en Colombie, il n'y a pas d'autre communauté paysanne qui dénonce aussi clairement les crimes commis par les paramilitaires.
Parce que l'homme qui parle actuellement, Jesús Emilio, est un paysan.
Sí, yo soy campesino desde cuna.
Oui, moi je suis paysan depuis le berceau.
Qu'est-ce que tu as fait comme étude ?
No, yo nunca conocí las puertas de un plantel educativo. El Estado nunca me dio esa oportunidad.
J'ai jamais passé les portes d'une école. Le gouvernement ne m'a jamais donné cette chance.
Tu veux dire que tu n'es jamais allé à l'école?
Nunca.
Jamais.
C'est-à-dire que tu sais écrire?
Sí, un poco.
Un petit peu.
Voilà. Tout ce que tu dis là, tout ce que tu es en train de dire là, c'est basé sur ta réflexion, mais à partir de tes expériences de paysan et de tout ce que tu as vu autour de toi.
Sí, es que a partir de... La vida cotidiana que me ha tocado desde ser niño víctima del Estado.
Ça, c'est ma vie quotidienne qui a fait que depuis enfant je suis victime de l'État.
Pues porque yo, como decía, no he tenido nunca que agradecerle a el Estado desde pequeño.
Parce que moi, l'État, j'ai jamais eu à les remercier de rien du tout.
Tiens, un lutteur social.
Soy uno de los fundadores de la comunidad de paz.
Je suis un des fondateurs, moi, de la communauté de paix.
Y dentro de eso nos mantenemos de no colaborar con ninguno de los actores armados, ni directa ni indirectamente con ninguno de ellos.
Et nous nous refusons de collaborer avec aucun des acteurs du conflit armé.
Quisiera entonces mentar siquiera una de las masacres cometidas por los militares el año 2005, el 21 de febrero.
Donc je vous parlais d'un massacre commis par les militaires le 21 février 2005.
Donde son asesinado 8 personas.
8 personnes ont été assassinées ce jour-là.
Dentro de ellos 4 menores de edad.
Dont 4 mineurs.
Son masacrados por los militares, por la brigada 17.
Par les militaires, par la brigade 17.
Los nombres de los asesinados en esta masacre eran Luis Eduardo Guerra, Guerra, Alfonso Bolívar, Tuberquia, Bellanira, Areiza, Deiner Guerra, el niño Santiago, la niña Sandra y Sandra, que era la mujer de el difunto Bolívar, y otro campesino de la zona que se llamaba Alejandro. Estas fueron las 8 personas asesinadas en esa masacre por la Brigada 17.
Donc ça c'est les noms des 8 personnes qui ont été assassinées par la Brigade 17 en février 2005.
Donde fueron despedazados los niños con machete.
Et les enfants ont été dépecés à coups de machette.
Et por eso nosotros continuaremos muy firmes en este proceso porque la injusticia del Estado continúa.
C'est pour ça que nous continuerons dans ce projet sans relâche parce que l'impunité imposée par le gouvernement continue.
El presidente Álvaro Uribe entonces se pasa haciendo giras a nivel internacional.
Le président Álvaro Uribe passe son temps à faire des tournées internationales.
Queriendo mostrar el país como un país democrático.
En voulant montrer le pays comme un pays démocratique.
Con libertad.
Avec de la liberté.
Que realmente no existe.
Alors que c'est faux.
La llamada democracia que él habla es solo una teoría porque no la conocemos millones de colombianos.
La démocratie dont il parle, ce n'est qu'une théorie parce que nous, des millions de Colombiens, nous ne la connaissons pas, nous ne la voyons pas.
Y lo que sí busca es esconder la realidad que nos toca vivir a todas las víctimas, que nos toca vivir la persecución del Estado.
Il ne fait que cacher la vérité de la persécution que vivent ici des millions de Colombiens.
En la cantina el despecho sucedió esta gran historia. Lo que les vengo a contar lo recuerdo como si fuera ahora. Parece que fuera ayer, no se ha borrado de mi memoria. Domingo, día de las madres, del mes de mayo del 97. Los personajes de que hablo no corrieron con gran suerte. Nadie pensó que ese día se encontraran con la muerte. Estaba un hombre tomando ese domingo allí en la cantina. Estaba medio borracho y maldecía su propia vida. Esta noche echó la bala, si no les gusta, pues no mastigan. En la mesa de enseguida había otro hombre tomando solo. Le dijo: querido amigo, yo lo acompaño, quiero ser su socio. Vamos a tomar los dos, en esta mesa estamos solos.
Thank you. Ce que je trouve formidable, c'est que sur cette petite maison en bois là, il y a une affiche pour Haïti. C'est-à-dire que les gens d'ici soutiennent les Haïtiens. C'est-à-dire que les pauvres des pauvres soutiennent les pauvres des pauvres des pauvres. Ça, c'est assez balèze. Basta de ocupación económica y militar d'Haïti. Campagne de solidarité avec Haïti pour le retrait des troupes étrangères et l'annulation de la dette. Voilà, et la marche commence. 12 km à pied de San José de Apartado vers la ville d'Apartado. La ville d'Apartado, c'est une ville qui est au milieu des bananeraies. Immense bananeraie, une marée, une mer quand on arrive, quand on atterrit à Apartado. On ne voit que des bananiers à perte de vue. C'est des entreprises qui travaillent pour Chiquita Brown, cette immense multinationale, le premier fabricant producteur de bananes au monde, héritier de United Fruit. Et Chiquita Brown vient d'être à nouveau poursuivie en justice pour avoir payé des unités paramilitaires qui sont impliquées dans des assassinats de syndicalistes, ou d'ouvriers ou de travailleurs de ces mêmes bananeraies. On en parlera dans les émissions à venir et on continue la marche de. À tout moment dans ce pays, la musique jaillit et c'est à chaque fois un enchantement. Je ne connais pas un autre pays au monde où on a autant de musique d'une telle qualité. Vous entendez, on demandera à Antoine de traduire, mais il y a beaucoup de musique, de chansons qui évoquent tout ce dont nous parlons, par exemple cette chanson sur la parapolitique, etc. Merci à tous. C'était avec Guy Vanctil et Antoine Chao, ce reportage où nous remercions les amis de la communauté de paix, donc de San José de Apartado, Aaron, Vladimir, Jesús Emilio, Javier Giraldo, Diego Pérez et Laurence Mazur et Maurice Lemoine. Un film sur ce sujet a été tourné, Hasta la última pierda, jusqu'à la dernière pierre, de Juan José Lozano. Et puis à ne pas manquer, si vous le trouvez, on vous dira comment le trouver, un film formidable sur la Colombie, ABC Colombia de Enrico Colusso, qui est sorti en 2006. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas, si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez laisser des messages sur le site de France Inter, n'hésitez pas, ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez aussi réécouter cette émission et beaucoup d'autres, et laisser aussi vos messages, appréciations, coups de gueule et coups de cœur, etc. Vous connaissez la solution. À la technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Farid Chibani, c'est Yann Chouka et Koye de Guyenne qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry, qui s'occupe également du répondeur, dont le numéro est, et vous le savez bien, 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
La base du Suisse. Escoutez, la base du Suisse.